Et voilà. Donc, on continue notre étude suivie. Alors, pour ceux qui nous visitent, on est dans une étude suivie de 1 Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens. On entame le dernier chapitre aujourd'hui, chapitre 16. Alors, quand je savais que c'était mon tour cette semaine, vu qu'on alterne avec Andou, je regarde les versets rapidement. On fait toujours ça. Je pense qu'il fait pareil un petit peu à l'avance pour voir ce qui va, le thème qu'il doit aborder. Oh ! Ah, l'argent et les offrandes. Ah, dur. C'est pas un sujet qu'on aime aborder en général. On aime bien prêcher sur l'amour de Dieu parce que ça, c'est facile et on aime ça, mais ah, là, le thème, c'est les offrandes. Alors, c'est dans la parole de Dieu et l'avantage aussi de prêcher selon la méthode d'expository preaching, donc prédication expositive, c'est qu'on suit le livre et on n'écarte rien. Donc, si c'est dans la Bible, il faut en parler. Mais la culture française, pour nous, c'est un peu tabou de parler d'argent, en plus dans l'Église. Dans le monde, on n'aime pas trop déjà parler de nos salaires, tout ça. Alors, dans l'Église, on n'aime pas. Mais bon, c'est dans la parole de Dieu, donc on va la regarder ce matin. 1 Corinthiens 16, versets 1 à 4. Donc là, c'est la fin de la lettre. Hein. On a vu déjà tellement de thématiques, sur tellement de points de doctrine. Puis là, on arrive sur des points un peu plus pratiques. Et vous allez voir que même quand on parle d'argent, on parle aussi de l'amour de Dieu, finalement. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, leur dit Paul, « Agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. » Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. On va prier avant de commencer. Seigneur, c'est ta parole, c'est un thème qui est présent, donc nous devons l'étudier aussi et l'approfondir. Tu l'as laissé comme enseignement pour nous aussi. Alors Seigneur, te prions de nous parler, que ta parole, Seigneur, touche nos âmes, touche nos cœurs, qu'elle nous encourage, qu'elle nous reprenne peut-être, qu'elle nous édifie, Seigneur, en toutes choses, afin que nous soyons conformes à ta volonté. Nous t'en prions dans le nom de Christ. Amen. Un court texte, hein, 4 versets, ce qui va nous permettre de voir 3 points pour répondre à 3 questions concernant le thème des offrandes dans l'Église. Pourquoi donner? Comment donner? Et combien donner? Alors on va commencer déjà par regarder le premier point. Pourquoi donner à l'Église? On trouve 3 types d'offrandes dans les Écritures. Est-ce que vous savez la première mention qu'on pourrait trouver? Vous avez une petite idée? Ouais, dans quel passage? Ouais, c'est pas mal. On va regarder déjà dans le premier verset, c'est le prophète Amos, à un moment qui va nous donner justement une piste, il va nous mettre sur la voie. Là. Amos chapitre 4, versets 4 à 5. Alors, il fait des reproches là, le prophète, mais dans sa colère, il va dire des choses importantes justement par rapport au thème de l'offrande. Il dit au peuple, allez à Bethel et pêchez! Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Il leur fait des reproches en disant ça, son offrande et tout, vous êtes très fort, par contre, l'amour, la miséricorde, tout ça, c'est autre chose. Donc là, si on regarde bien, il y a 3 types d'offrandes. Il parle des sacrifices. Il parle de dîmes et il parle d'offrandes. C'est ce qu'on va regarder dans le détail. Alors, la première mention d'offrande, effectivement, elle se trouve dans la Genèse. Genèse chapitre 4, versets 3 à 4. Genèse chapitre 4, versets 3 à 4. C'est après la chute. Le Seigneur a tout créé, tout l'univers. Il a créé l'homme, la femme, après les animaux, les plantes, etc. Puis l'homme et la femme ont péché. Le Seigneur voilà, a comblé, a pourvu, et puis ils ont eu des enfants. Et on voit qu'au bout de quelques temps, donc il y a 2 enfants pour l'instant, Caïn et Abel. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Voilà, on voit ici la première notion d'offrande. Dans ce passage-là, le mot employé, c'est « mincha », qui veut dire « offrande » dans le sens de « sacrifice ». On voit 2 types ici d'offrande. Et puis, si on le lit de façon rapide, sans trop s'interroger, on se dit c'est un peu, Dieu, il est un peu arbitraire quand même. Il agrée l'un et pas l'autre. Pourquoi ? Je veux dire, les deux font une offrande sacrifice. Et pourquoi ? Comme ça, c'est au bon vouloir du roi, n'est-ce pas ? Le Seigneur serait-il injuste à ce point-là ? Non. Si on regarde un tout petit peu, très simplement, si vous vous rappelez de l'histoire, lorsqu'Adam et Ève ont péché, le Seigneur, il a pourvu par un sacrifice pour expier ce péché. Vous vous rappelez, c'était un sacrifice ? C'était quel, ce qu'avait fait le Seigneur ? Il avait tué un animal et il les avait recouverts de la peau. Donc, contre le péché, le Seigneur avait donné un sacrifice d'animal. Et ici, on voit que Abel fait un sacrifice animal, mais que celui de Caïn est un sacrifice végétal. Donc, on voit déjà qu'il y a une différence entre ce que Dieu avait fait et ce que cet homme fait de son côté. Et puis, la différence entre... Alors, ça, c'est une première différence, mais la deuxième, c'est que Abel, lui, c'est les premiers-nés de son troupeau. Et ce n'est pas mentionné pour Caïn. Caïn, c'est les fruits de la terre, les fruits de la semence. Lui, c'était les premiers-nés, donc il a donné la première part à Dieu. Et on voit l'intention de donner d'abord ce qu'il y a du meilleur au Seigneur, le meilleur au Seigneur. Et ensuite, il ne donne pas seulement un animal, il donne aussi la graisse. C'est-à-dire qu'il ne donne pas seulement la peau ou un peu de viande, c'est, il donne la graisse avec, c'est ce qui était assez précieux pour l'époque. Donc on voit que c'est une offrande conforme à ce qu'avait fait l'Éternel. C'est les prémices de son troupeau. Et en plus, il est généreux, il donne la graisse. Donc voilà pourquoi l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel, mais pas sur Caïn. Voilà, ce n'est pas que le Seigneur soit arbitraire, c'est qu'il y avait une bonne raison derrière. Alors ça, c'est la première notion, la notion d'offrande, sacrifice, un sacrifice. La deuxième notion, c'est la dîme. Et là, on va un petit peu plus loin, toujours dans la Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. Passage où Abraham s'est séparé de Lot, et puis Lot s'est fait, il est parti à Sodome, Lot, et puis il s'est fait prendre dans, une, dans un conflit entre plusieurs rois. Abraham va le délivrer, il va aller jusqu'à Damas, il va le rechercher, etc. Et on trouve après ce passage, après qu'Abraham fut venu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Dans ce passage-là, dans Genèse, on voit Abraham qui fait cette rencontre un peu mystérieuse, Melchisédek, donc qui est une représentation de Christ, hein, c'est une christophanie. Il est roi de Salem, donc roi de, près, de paix. Il est prêtre du Dieu Très-Haut, sacrificateur, le pain, le vin. Voilà, on voit l'image du Seigneur ici. Et puis Hébreux 7 dira que c'est une apparition de Jésus, donc il le confirme aussi. Le terme employé ici, c'est pas mincha pour offrande, mais c'est maaser, c'est un autre terme, qui veut dire en fait le dixième de tout. Et c'est ce qu'on a retranscrit nous par dîme, qui vient du latin décime, décimal, le dixième. Voilà l'idée. C'est le dixième de tout. Voilà. Et donc ici, on voit que Abraham s'humilie et donne le dixième de tout, c'est la dîme. Alors, on voit ici les deux premiers exemples qu'on avait vus dans Amos, c'est sacrifice et dîme. Et plus tard, dans l'Ancien Testament, lorsque, là on est encore avant la révélation à Israël de Dieu, hein, enfin, quoi qu'avec Abraham, ça y est, Dieu s'est déjà révélé, il a déjà quand même dévoilé son plan. Mais on va regarder quand on est un petit peu plus loin sous la loi, ce coup-ci on va aller avec Moïse sous la loi, on va regarder si ces notions perduraient encore. Alors oui, je peux déjà vous l'annoncer, je spoil un peu mon message. Effectivement, sous la loi, les principes vont rester les mêmes. Il y aura le sacrifice aussi et la dîme. Le sacrifice, il était donné pour l'expiation des fautes et des péchés dans le temple. Et on sacrifiait des animaux, des bœufs, des tourterelles, etc. Ou alors, il y avait d'autres dîmes qui étaient faites en reconnaissance à Dieu. Il y avait le sacrifice et la dîme. Et la dîme, elle revenait, si vous connaissez un peu votre l'histoire d'Israël, toute la dîme qui était apportée dans le temple, les 10%, c'était pour les Lévites. C'était le peuple de Dieu qui était la tribu qui était consacrée au service dans le temple. Donc c'est eux qui profitaient finalement, qui vivaient à partir de cette offrande-là. Regardez avec moi dans Nombre 18, versets 19 à 21. Nombre 18, 19 à 21. Voilà ce que dit l'Éternel à la tribu de Lévi. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc toutes les dîmes qui étaient apportées au temple, c'était pour la tribu de Lévi, parce que la tribu de Lévi n'avait pas le droit de posséder des propriétés ou n'avait pas d'autres fonctions, d'autres travail. C'était leur ministère, c'était le temple. Il fallait bien qu'ils mangent et qu'ils vivent, donc Dieu, dans sa bonté, leur donnait les 10%. Donc le sacrifice, la dîme, et le troisième type d'offrande qu'on avait vu dans Amos, c'était l'offrande volontaire. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la libéralité, finalement. On va regarder un exemple avec le grand roi David lors de la construction du temple de Jérusalem. 1 Chronique 29, versets 2 à 9. Alors, le temple de Jérusalem, il était glorieux. Hein, nous, notre salle, elle est simple. Mais le temple de l'Éternel, c'était la maison de l'Éternel à Jérusalem, dans sa ville bien-aimée. Donc, c'était glorieux. Voilà. Alors, c'est David qui va tout préparer pour le temple, c'est pas lui qui va faire le temple, ça va être son fils Salomon, vu que Dieu va dire à David, tu as trop de sang sur les mains, donc c'est ton fils qui va faire le temple. Mais David avait tout préparé, même la musique, tout était prêt, et puis on va voir donc cette partie. C'est David qui parle, il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx, des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, du marbre blanc en grande quantité. Waouh ! De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, 7000 talents d'argent épuré pourront revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel ? Il pose la question au peuple, et on voit les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Voilà, on voit le peuple à la bonne disposition qui va aussi rajouter pour la construction du temple. Alors, pour résumer, dans l'Ancien Testament, on a trois types d'offrandes. On a les sacrifices, pour expier les fautes ou en reconnaissance à Dieu. On a la dîme, qui revenait à la tribu de Lévite pour le salaire finalement des ouvriers du temple. Et puis on a les offrandes volontaires pour les besoins de la maison de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Très bien. Mais nous, aujourd'hui, on est un petit peu plus avancé dans cette époque et dans cette histoire. Donc nous, il faut qu'on regarde à la lumière du Nouveau Testament. Le Seigneur est venu avec une nouvelle alliance. Qu'est-ce qui reste de tout ce qui était ces prescriptions anciennes ? Alors on va regarder déjà l'offrande de dîme pour les serviteurs du temple. Parce que Paul en avait parlé un petit peu plus tôt dans Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 11 à 15. C'est Andou qui avait prêché sur ce thème-là, et il nous avait évoqué justement le thème des offrandes. Paul en avait parlé un peu plus tôt. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 11 à 15. Il leur avait dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, là c'est César, l'impôt, etc., n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple ? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? Là c'est les Lévites dans le temple. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, leur dit Paul, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai écrit ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Alors, par ce premier exemple, on voit une chose, c'est que le Nouveau Testament confirme toujours cette fonction de la dîme qui revient pour les serviteurs du temple, c'est ce que dit Paul ici plus loin. Et si on revient sur les versets qu'on a lus en introduction, 1 Corinthiens 16, verset 1er, 1 Corinthiens 16, 1er, Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai indiqué, ordonné aux églises de la Galatie. Ah, donc on se dit, il a dit quelque chose aux Galates. Alors on va aller chercher dans la lettre aux Galates pour voir ce qu'il leur a dit. Mais finalement, il n'y a pas un grand chapitre sur les offrandes, on pourrait s'y attendre, mais en fait, il y a deux versets à un moment qui sont glissés. C'est Galates 6, et après on va voir un petit peu plus tard le deuxième verset. Galates 6, il en dit quelque chose. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qu'on enseigne, avec celui qui l'enseigne. Donc, il reprend la même idée. Voilà. Ceux qui sont serviteurs à la fonction de Dieu doivent vivre de l'évangile, et il incite justement les Galates. Il leur dit au départ, faites comme j'ai dit aux Galates, et quand on regarde Galates, il leur donne la même idée, c'est-à-dire, donnez vos parts aussi pour les serviteurs. Donc, une part des offrandes doit donc s'orienter vers ceux qui assurent le service du culte dans les églises, voilà. C'est courant, c'est assez courant. Alors, dans nos églises en France, on a des petites églises avec des petites structures, mais vous avez vu qu'à Mulhouse, l'église qui a été infectée par le coronavirus, vous avez vu nos frères et sœurs, il faut prier pour eux, comme avec notre sœur, l'épouse d'Edouard de Pessicard. J'étais surpris, c'est quand ils ont été interviewés au journal, ils ont interviewé plusieurs salariés de l'église, en fait. Ils ont interviewé la secrétaire, le trésorier, ils présentaient comme des salariés de l'église. Donc, ils étaient 2000 au rassemblement, donc il y a des églises, pas trop en France, mais dans le monde, où il y a des fois 7-8 salariés dans une église, donc s'ils se dédient entièrement à l'œuvre de Dieu, bah, il faut aussi, hein, ils ne peuvent pas vivre d'amour et d'eau fraîche, ils ont aussi besoin. Donc pensons, quand on fait nos offrandes aussi, la destination, ce sera aussi pour ceux qui servent dans la maison de Dieu. Ça, c'était la dîme pour les serviteurs. Maintenant, on va voir l'offrande volontaire pour les besoins de la maison de Dieu. Alors, justement, si on reste dans 1 Corinthiens 16, verset 1, là, Paul, il va donner la fonction, il dit « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. » Voilà, donc là, il donne bien la destination. C'est vrai que dans nos offrandes, les offrandes, ça sert aussi à payer les dépenses du local, hein, l'électricité, le chauffage. Et d'ailleurs, on vous remercie pour votre fidélité, année après année, mois après mois, semaine après semaine, dimanche après dimanche, parce que c'est la générosité aussi des croyants et des fidèles qui permet que cette église puisse se réunir dans cette salle. Donc c'est Dieu qui pourvoit au travail, c'est Dieu qui met ça dans vos cœurs, mais c'est vous ensuite qui faites, vous pourriez aussi dire non. Donc merci à vous pour vos offrandes qui fait que cette église, bah, depuis de nombreuses années, est toujours dans ce local et qu'on peut encore couvrir tous les besoins. Mais la mention ici en faveur des saints, elle va aussi un petit peu plus loin. Ça concerne aussi donc les saints, la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est quoi la maison de Dieu? Et Andou l'a dit ce matin, la maison de Dieu, c'est avant tout, en dehors de la salle. Si on ne peut plus louer la salle, est-ce que l'église va se disparaître? Qu'est-ce que l'église? L'église, c'est ceux qui la composent, hein. c'est les croyants. Hein. Regardez avec moi dans 1 Pierre 2, 4 et 5. L'église, c'est avant tout le peuple que Dieu s'est racheté au prix du sacrifice de son Fils. Hein. Voilà ce que dit Pierre. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Ça, c'est Christ. « Et vous-même, ça c'est nous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Alors, ça c'est la version 79, dans la version second 21, c'est « afin d'offrir des sacrifices spirituels. » On a encore cette mention-là. Donc, par ces offrandes-là, donc les offrandes volontaires, ça couvre aussi les besoins de la maison de Dieu, mais c'est aussi le peuple de Dieu, les saints, qui sont représentés ici, qui pouvaient être dans le besoin. Et justement, c'est ce que Paul dit dans Galates. On avait vu Galates 6, 6, on va regarder Galates 6, 10. C'est la même idée ici. Quand Paul, dans 1 Corinthiens 16, il parle des Galates, il donne deux idées, il dit c'est la dîme pour les serviteurs du temple, mais il y a aussi Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, il insiste bien ici en disant, voilà, le peuple de Dieu, parfois, il va être dans le besoin. Ça peut arriver, il y a des périodes de disette, il y avait aussi des famines à l'époque. Et bien, justement, Paul leur dit, voilà, pratiquez le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Et quand les Corinthiens, là, ils vont faire une collecte, on croit comprendre que c'est parce qu'il y avait une famine à Jérusalem. Il y a un moment, je crois que c'est dans Acte 13, il y a une mention qu'il y avait une famine à Jérusalem et qu'il y avait une collecte qui allait être organisée dans les églises. On peut penser qu'il y a un lien entre les deux. Donc il y a une période de difficulté là, et ces offrandes, elles allaient servir pour les besoins de la maison de Dieu, alors la salle, mais surtout ceux qui la composent, les saints. Donc, première offrande, l'offrande, la dîme pour les serviteurs. Deuxièmement, l'offrande volontaire pour les besoins de la maison de Dieu, qu'il soit le local ou aussi surtout les saints. Et le troisième, alors qu'on avait vu dans l'Ancien Testament, c'était l'offrande sacrifice pour expier les fautes. Et alors là, est-ce qu'on la retrouve encore dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament ? Ben non, on la retrouve plus celle-ci. Pourquoi ? Parce que c'est plus la peine. C'est plus la peine. C'est plus la peine parce que c'est plus nécessaire. Jésus a tout payé sur la croix. Il n'y a plus besoin de refaire des sacrifices, il n'y a pas besoin de retuer des boucs et des agneaux, etc. Dieu a déjà tout payé. Éphésiens 5, verset 2. Paul dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Le sacrifice, il est déjà là, il est parfait en Jésus-Christ. Il n'y avait pas un agneau plus pur, il n'y avait pas un sang plus pur, il n'y avait pas un homme plus pur, il n'y avait pas un sang plus divin, il n'y avait pas une personne plus divine, il n'y avait pas un être plus parfait. Tout est là, et Christ l'a fait volontairement. Donc le sacrifice, ça c'est fait les amis, il est déjà accompli, raison pour laquelle nous ne sacrifions plus, et nous ne croyons pas, donc quand on prend la scène, qu'on resacrifie Christ, comme d'autres religions, voilà. Nous, pour nous, tout est accompli, la scène est juste un souvenir, comme ça a été rappelé ce matin. Tout est accompli par Christ. Il s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, et c'était suffisant pour le Père. Donc, si vous êtes encore loin du Seigneur, si vous n'avez pas encore fait la paix avec lui, il n'y a pas besoin de donner beaucoup d'argent à l'Église, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'œuvres dans des actions caritatives, il y a juste une chose à faire, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus sur la croix comme une offrande et un sacrifice pour Dieu en remplacement de vos fautes à vous. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Après, Christ a tout accompli. Éphésiens dira plus loin, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Voilà, donc tout est fait. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a une offrande qui disparaît, c'est l'offrande sacrifice, plus besoin. Alors, on a vu pourquoi donner. Maintenant, on va regarder comment donner. Il y a une manière de le faire aussi. On va lire le deuxième verset de 1 Corinthiens 16, qu'on avait lu en introduction. Ça explique justement de façon pratique comment l'offrande doit être faite. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Alors, comment donner ? Après avoir vu pourquoi, comment ? On voit ici deux aspects. Il faut collecter la dîme le premier jour de la semaine, donc second 21 dit le dimanche, et ne pas attendre que la dîme soit exigée. Voilà, il dit, afin qu'on n'attende pas mon arrivée. Alors, collecter le dimanche. Pourquoi le dimanche ? Ben, l'idée, c'est de le faire au début. Vous vous rappelez du sacrifice d'Abel, il a donné quoi ? Les premiers-nés. Et Dieu, sous la loi, il va demander au peuple, ce sera les prémices de la moisson, les premiers-nés du troupeau, le premier mâle, etc. Tout comme Christ a été les prémices de ceux qui sont morts. Hein. L'idée, c'est la même. Hein. Donc, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël devait donner à Dieu prémices des moissons, du bétail, etc. Et Paul, il redit la même chose. Il dit, faites ça le premier jour de la semaine. Pourquoi, à votre avis ? C'est de la sagesse, en fait. Parce qu'il sait comment on est. Si on ne donne pas le premier jour, pareil, nous on est payé tous les mois aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est plus forcément payé à la semaine ou au jour, mais on est payé au mois. Si on attend la fin du mois, ce qui reste pour faire l'offrande, vous voyez ce que je veux dire ? On aura déjà tout dépensé et il n'y aura plus rien. Qu'est-ce qu'on va donner au Seigneur ? Les miettes de ce qui reste ? Donc Paul recommande plutôt de donner en début de mois. Comme ça, là, on a fait notre part, on a donné notre part au Seigneur. Et après, on peut dépenser ce qui reste. Mais il sait très bien sinon comment on est fait. Et qu'à la fin du mois, il risque de ne pas rester grand-chose. Et que le Seigneur, il n'aura pas les prémices. Alors, je ne sais pas l'antonyme de prémices. Voilà, ce qui reste. Voilà. On lui laissera les poussières, en fait. Hein. Donc, il est donc plutôt sage de faire l'offrande au début du mois. Quand on a notre salaire, c'est plus prudent. Deuxièmement, ne pas attendre que la dîme soit exigée. Qu'on n'attende pas l'arrivée de Paul, là, il est dit. Alors c'est vrai que nous on fait passer la bourse, les offrandes de dimanche, voilà, on fait passer comme ça. Il y a des églises qui ne le font pas, nous on avait pris un peu l'habitude de le faire. C'est vrai que le rapport à l'argent c'est compliqué en France. Hein. On a des frères dans cette église qui sont d'autres cultures, alors là elles n'ont pas de soucis. Hein. Au contraire, pour eux on devrait le thème de l'argent, pas de souci, je pense à nos amis brésiliens, pour ne pas les citer, mais ils ne s'en cachent pas. Eux, pour eux, le thème de l'argent dans l'Église, ce n'est pas un souci du tout. Hein. Nous, vous savez, si vous êtes habitués ici, que c'est un sujet qu'on aborde quasiment pas. Hein. Pareil, en France, on ne dira jamais le montant de votre salaire, de son salaire. Vous donnez le montant de votre salaire, si je vous le demande, vous me le donnez ou pas? Non, hein. C'est tabou. Hein. Il y a d'autres pays où on n'a pas de souci. Hein. Aux États-Unis, les gens disent leur salaire, il n'y a aucun problème. Hein. Je ne sais pas, c'est peut-être le cas dans vos cultures, je ne sais pas. En France, jamais. Hein. C'est quelqu'un qui demande le salaire, c'est quand même assez tabou. Quoi. Voilà. Donc, Paul ici demande à l'église de Corinthe de réunir les dîmes sans attendre sa venue. En fait, ce qu'il veut leur enseigner, c'est d'être autonome sur la dîme. Il veut qu'ils soient autonomes, qu'il n'y ait pas besoin qu'on leur redise les choses ou qu'on leur tire un peu les oreilles en disant « Faites-le le premier jour de la semaine, collectez vos offrandes, il n'y a pas besoin que j'attende et que je vienne dans l'église pour récolter, faites-le, soyez autonomes. » Il veut leur donner, en fait, voilà, il veut qu'ils soient aussi affermis sur ce point-là. Alors, c'est vrai que dans nos églises, on est un peu prudent, on est un peu silencieux sur ce thème-là, mais Paul, lui, se gênait pas. Hein. Les thèmes de la dîme, c'est quelque chose dont il parlait librement. Peut-être aussi, c'est quelque chose où, en tant que chrétien français, n'est-ce pas, on doit pas être, la culture ne doit pas intervenir ici. C'est un thème de la Bible, on doit aussi l'enseigner et prêcher dessus. On a vu pourquoi donner, comment donner, donc le premier jour de la semaine, plutôt au début, et puis voilà, qu'on n'ait pas besoin forcément qu'on nous rappelle de faire la dîme, c'est la personne qui doit le faire selon ce que le Seigneur lui mettra sur son cœur. On va regarder le dernier point, combien donner maintenant? Pourquoi, comment et combien aussi, parce que, voilà. Mais avant de regarder ce point-là, on va ouvrir une petite parenthèse. Je trouvais intéressant qu'on regarde l'attitude de Paul par rapport aux offrandes, à sa gestion des offrandes. Paul, il était leader, fondateur de beaucoup d'églises. Donc, il en avait fondé beaucoup, il était resté plusieurs temps à chaque fois pour édifier l'église. Et puis ensuite, dans ses différents voyages, il revenait dans les églises. Il était conducteur dans pas mal d'assemblées. Alors son exemple, ça peut nous être utile pour ceux qui sont conducteurs dans une église ou qui le seront. Alors, regardons l'attitude qu'il a. Versets 3 et 4 de 1 Corinthiens, c'est les deux versets d'après, c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure en introduction. Verset suivant, verset 3. Donc Paul leur dit « N'attendez pas que je sois là ». Et ensuite, il leur dit « Quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. » Les libéralités, donc c'est les offrandes volontaires. Donc, il sera venu, il va envoyer avec des lettres les personnes qui auront eu la collecte des offrandes. « Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. » Alors, si tu veux bien revenir vers verset 3, je vais le relire une deuxième fois. « Quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. » Verset suivant. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Ce qu'on voit ici, c'est que Paul n'allait pas emporter lui-même les offrandes à Jérusalem. Paul y vient, mais il ne va pas emporter les offrandes à Jérusalem. Il dit là, c'est d'autres, verset 3, il dit, c'est d'autres frères qui vont s'en occuper en fait. Verset précédent. J'enverrai avec des lettres les personnes que vous aurez approuvées pour porter vos libéralités à Jérusalem. C'est pas lui qui va les emmener. C'était plutôt sage de la part de l'apôtre Paul. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Paul, et on l'a vu dans Corinthiens aussi, il était très souvent attaqué, Paul. Hein. Paul, on disait, il n'est même pas apôtre. Moi, je préfère Pierre, moi, je préfère Apollos. Il n'est même pas apôtre. Et quand il vient chez nous, alors, dans ses lettres, il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort? Quand il prêche, qu'est-ce qu'il est minable? Et il disait comme ça, hein, c'était les termes. Hein. Il est méprisable. Il est très fort quand il est de loin, mais alors quand il est chez nous, alors il est méprisable. Il avait beaucoup de détracteurs, Paul. Donc il a trouvé ça plus prudent de ne pas s'occuper de la collecte. Regardez avec moi pourquoi. 2 Corinthiens, ce sera dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, versets 18 à 21. Il va expliquer pourquoi en fait. Donc il dit, nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. Donc voilà, il parle de Tite et puis il y a un frère aussi. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Reviens vers cette précédente, s'il te plaît. Voilà, que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Donc en fait, il dit, on va aller à plusieurs, parce que personne dise que... on en a profité un peu, quoi. Préférez être prudent dans ces cas-là. Voilà, donc, C'est aussi certainement une bonne image pour nous, si la Bible en parle et que Paul donne cet exemple-là, certainement qu'il est préférable pour les personnes en charge des aspects spirituels d'une église de ne pas intervenir dans le thème de la gestion de l'argent. Séparons les choses. Il y a la partie matérielle et la partie spirituelle dans l'église. Peut-être qu'il est plus prudent que la frontière entre les deux ne soit pas trop tenue. Vous voyez, qu'elle soit quand même sur la muraille de Chine, quoi. On passe pas. C'est ce que dit Paul en tout cas. Paul, il venait pour l'enseignement spirituel, la gestion spirituelle, tous les problèmes de doctrine et tout. Et pour l'argent, il ne prenait pas l'argent. C'était d'autres frères qui l'emmenaient, ou alors il disait, s'il y a besoin, j'irai avec eux. Mais il n'y allait pas tout seul. Et il dit ici pourquoi. C'est que personne ne nous blâme au sujet de cet abandon de collecte. Et le verset suivant, il dira, parce qu'on ne veut pas être en fait une pierre d'achoppement pour les autres, quoi. On veut rechercher tout ce qui est bien pour devant Dieu, devant les âmes. C'était le même précepte qu'avaient fait les apôtres aussi au début de l'Église. Regardez avec moi, Actes 6, versets 1 à 4. C'était le même principe. Il y avait des soucis au début. C'est la fondation de l'Église. Le Seigneur est parti. Il a laissé les premiers apôtres, les premiers disciples pour constituer l'Église. Il y a eu la Pentecôte, etc. Et puis on voit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Grecs et les Nistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Chacun distribuait en fait, ils mettaient tout en commun, il y avait des distributions pour les veuves, pour ceux qui n'avaient pas assez. Puis il y a les Grecs qui marmonnaient un peu, comme les Corinthiens, hein, marmonnent un peu. Alors, les 12, les apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Mais pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc on sait qu'on fasse du spirituel et du matériel. Hein. Verset suivant. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voilà, donc Pierre, principe de sagesse, il dit, bon, il y a un souci là, on commence à être trop nombreux, on ne peut pas faire à la fois la partie spirituelle et la partie matérielle, c'est pas sage. On va prendre 7 personnes remplies de l'Esprit Saint, consacrées à Dieu, ils vont faire le matériel. C'est pas n'importe qui, hein. On prend bien des chrétiens là, hein. On prend bien des personnes consacrées. Et puis nous, on va garder la partie spirituelle. Donc il y avait déjà ce principe-là. Alors attention, dans nos églises à nous, peut-être qu'il est plus prudent quand on a une certaine taille de responsable d'église, s'il n'y a qu'une personne ou deux, ben voilà. Mais dès qu'on commence à atteindre le nombre suffisant, peut-être à détacher la partie spirituelle et matérielle, parce que on a vu à l'exemple de Paul, quand il dit aux Corinthiens, non, il y en a peut-être qui vont marmonner, donc c'est plus prudent, quoi. Alors, ça, c'était petite parenthèse pour l'exemple de Paul. Et donc, maintenant, on va regarder combien donner à l'Église. Voilà, c'est le dernier point qu'on va regarder ce matin. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, la dîme sous la loi, c'était 10%. Voilà, la décimale, c'était 10%. Alors, la question qu'on se pose, elle est légitime. On n'est plus sous l'Ancienne Alliance, on est sous la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'on doit encore faire la dîme? Et si c'est le cas, combien? 10%? Question, hein? La dîme, c'était sous la loi. C'était la loi de Dieu pour le peuple d'Israël. Est-ce qu'on est encore sous la loi? Non. Donc la dîme, logiquement, elle ne s'impose plus. Voilà, la dîme, elle ne s'impose plus. Parce qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Il n'y a plus d'obligation. La loi, c'était tout ce qu'il ne faut pas faire. La grâce, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc tout ce qu'il fallait faire avant, Jésus a tout accompli sur la croix, il n'y a plus la notion de dîme. D'ailleurs, le mot n'apparaît plus dans le Nouveau Testament. Il n'y a plus la notion de dîme, de 10%, ça ne revient plus. Donc plus de dîme, mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne peut plus faire d'offrande? Ah non, on a vu qu'il y avait deux notions tout à l'heure, il y avait les sacrifices, les dîmes et les offrandes. Sacrifice, Jésus a tout accompli. La dîme, c'était sous l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce qui reste maintenant? Les offrandes volontaires. Regardez Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc on a la notion de sacrifice, sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà déjà un sacrifice qui agrée au Seigneur. Voilà un vrai sacrifice pour le Seigneur, de notre part. Et verset suivant, « N'oublions pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » La notion ici de libéralité, c'est qu'on est libre, d'accord? C'est pas exigé, il y a la notion de « on est libre de le faire ». Donc on peut continuer de faire des offrandes volontaires pour répondre aux besoins de la maison de Dieu, des serviteurs et des saints. Voilà, Ici, il l'indique, hein, la libéralité, et vous avez vu dans ce qu'on a vu avec Corinthiens et Galates, effectivement, il y avait des dons qui étaient faits volontairement pour les saints, pour la maison de Dieu, donc il y a toujours ce principe-là. Mais alors, dans quelle mesure ? 10% ? Qu'est-ce qu'on doit faire, alors ? Il est où le curseur, là ? Si la règle des 10% a disparu, combien on doit donner ? Eh bien, c'était dans 1 Corinthiens 16, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure en introduction, versets 1 à 2. Paul l'avait dit. Voilà, il leur dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Verset suivant. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Voilà. Il n'a pas dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui les 10% de la dîme et qu'on n'attende pas mon arrivée, etc. Il dit que chacun donne ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc dans le Nouveau Testament, on est sur un autre principe, c'est le principe de libéralité. Dieu n'exige plus d'offrande, il n'impose rien. Le sacrifice, il est accompli, c'est bon. Ce qui était suffisant, ce dont Dieu avait besoin, c'était on a péché, il faut un sacrifice pour expier les péchés. Ça a été fait parfaitement par le sang de Jésus-Christ. Donc Dieu n'attend plus rien d'autre. Simplement, après, il y a le principe de libéralité, et c'est là où il voit le cœur de ses enfants. Donc, Dieu n'exige plus d'offrande. En revanche, il s'en réjouit hein, quand on donne volontairement. C'est le verset qu'on vient de lire un petit peu plus tôt, là. Hébreux 13, versets 15 à 16. C'est ce que Paul avait... Enfin, Paul, peut-être que c'est Paul qui a écrit Hébreux. Je fais partie de ceux qui pensent vraiment que c'est Paul, parce que quand je lis toutes les lettres de Paul et que je bascule sur Hébreux, pour moi, c'est le même style, quoi. Enfin, admettons, vu qu'il n'est pas cité, on ne sait pas vraiment qui a écrit Hébreux, mais... La lettre aux Hébreux disait, verset 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Le Seigneur, il aime quand ses enfants y donnent librement. Alors, aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et sous la grâce, c'est plus combien je donne, mais c'est comment je donne. Ce que le Seigneur regarde, c'est pas combien tu donnes, c'est comment tu donnes. Quelle est la disposition du cœur ? Est-ce que c'est contraint et forcé, c'est de dire... Alors, c'est vrai, on peut se dire, moi j'applique toujours les 10%. On peut continuer d'appliquer les 10%, c'est un principe de sagesse. Hein. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup, 10%? Alors, on peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Hein. On peut dire, quand même, le Seigneur, il demande 10% de mes revenus. Quoi. Ou alors, on peut dire, le Seigneur me laisse 90% de mes revenus. C'est pas pareil. Si on dit 10%, il me demande 10%, c'est sous la contrainte. S'il me dit... Il me laisse 90%, c'est quand même la meilleure part, quoi. Et là, on n'est plus sous la contrainte, là. On est vraiment sous la grâce. Préférons la deuxième approche, les amis. Pensons plutôt que le Seigneur nous laisse 90% des revenus, parce que n'oublions pas que le travail, c'est lui qui nous le donne. La santé pour accomplir le travail, c'est lui qui nous la donne. D'accord ? Et l'argent qui nous revient du travail, c'est lui qui le donne aussi. Donc, voilà. Ayons plutôt la deuxième approche. Regardons ce que va dire Paul plus tard dans sa lettre, toujours aux Corinthiens, mais la deuxième lettre. Là, il y a tout un chapitre entier sur les offrandes, c'est le chapitre 9, si vous voulez le regarder chez vous après. Mais là, il y a un verset clé pour répondre à la question « Combien je dois donner ?» C'est verset 7. On a déjà répondu avec 1 Corinthiens 16, mais Paul va rappeler encore aux Corinthiens, visiblement il insiste avec les Corinthiens, c'est qu'il avait besoin, il dit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc c'est plus « combien je donne », c'est « comment je donne ». Et le Seigneur, il aime ceux qui donnent les 10%. Non, il aime celui qui donne avec joie. Sous la grâce, il n'y a plus de règles, les amis, mais il y a des devoirs. Voilà, des devoirs de reconnaissance par rapport à Dieu, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors je vais juste conclure par une dernière parenthèse parce qu'on est dans des côtés très pratiques d'argent. Je suis désolé, j'ai dû prêcher là-dessus ce matin. J'espère que ça ne vous a pas choqué. En tout cas, c'est dans la parole de Dieu, donc j'ai essayé d'être fidèle à ce qui était dit. Mais je voudrais juste venir sur un point, c'est que vous savez qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Quand Jésus a été pris à partie un petit peu par les Juifs, qui voulaient essayer de lui glisser des questions poil à gratter là, pour le faire chuter, « Maître, nous savons que tu es un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, que tu enseignes avec droiture, que tu ne juges pas selon les cœurs, blablabla, c'est maître, qu'est-ce que t'es bien ?» Et puis derrière, il leur dit « Est-ce qu'on doit rendre l'impôt à César ?» Et la parole dit, Jésus avait bien compris la malice de la question, et il leur dit « Donnez-moi une pièce, Et il leur dit, c'est qui qui est... Alors, j'ai pas de pièce, je suis désolé. De toute façon, il n'y aurait pas César dessus, alors ça ne nous arrangerait pas plus que ça. Donc, il sort une pièce, il dit, donnez-moi une pièce. C'est qui, là, sur la pièce, César? Bah, vous rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, voilà. Le Seigneur, la question de l'argent n'était pas tabou et c'était très facile pour lui de régler ces problèmes-là. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Bonne surprise, les amis. César, en France, vous permet de déduire vos offrandes. D'accord? Je le dis pour un côté pratique parce que j'ai eu un échange cette semaine avec un chrétien et effectivement, il me dit c'était peut-être bien de le rappeler. Vous pouvez défiscaliser vos offrandes, celles que vous faites à l'église. D'accord? C'est tout à fait permis. Vous pouvez déduire jusqu'à 60% de vos dons. Et selon vos revenus, ça peut vous éviter d'être imposable. Je vous le dis par expérience. Donc, si vous faites vos dîmes à l'église, si vous voulez déduire, faites-les par chèque ou par virement qu'on ait une trace. Que si vous avez besoin de justifier les offrandes, qu'on puisse le faire au niveau de l'Église, d'accord ? Que le trésorier puisse vous faire le justificatif. Je vous le dis parce que c'est important, j'ai eu cet échange cette semaine, donc je préférais justement, comme c'était le thème des offrandes aujourd'hui, de vous en parler aussi. Donc si vous voulez défiscaliser vos offrandes, c'est pas du tout un péché. Rendez à César ce qui est à César, et César vous dit, moi si tu fais des offrandes dans des associations des Églises, tu peux déduire jusqu'à 60% de tes offrandes. Donc si César le demande, les amis, ne vous privez pas. Hein. J'aimerais conclure ce matin par un dernier verset. Donc, on a vu ensemble pourquoi donner, comment donner, combien donner. Et vous avez vu que dans le Nouveau Testament, il ne reste que deux types d'offrandes. L'offrande dîme et l'offrande libérale. D'accord ? On va terminer avec un dernier verset. C'est le Seigneur Jésus, justement. On va le laisser parler. Matthieu 6, versets 19 à 21. Le Seigneur, il n'était pas français, visiblement. Il était universel. Mais surtout, il n'était pas la culture française, parce qu'il n'était pas du tout tabou sur l'argent. Il en parlait très simplement. Et il dira, il nous laissera ses paroles aussi, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Verset suivant. « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà. Merci à tous. On va conclure par la prière. Seigneur, c'est un thème large et très présent dans ta parole, finalement, le thème de l'argent, Seigneur, que nous n'abordons pas souvent. Seigneur, en tout cas, merci de... Seigneur, ce que tu as laissé pour nous, parce que sinon nous ne saurions pas quoi faire. Nous ne saurions pas pourquoi, ni comment, ni combien. Seigneur, ta parole est précise et... Tu nous dis ce que tu attends de nous. Tu attendais de nous que nous ne péchions pas. Mais c'est trop tard, nous l'avons tous fait. Tu avais besoin d'un sacrifice pour expier nos fautes. Dans ta bonté, Seigneur, tu n'as pas voulu que ce soit chacun d'entre nous, chaque pécheur, qui a expié ses propres péchés. Tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour nous. Un sacrifice parfait, suffisant devant toi. Seigneur, nous n'avons plus besoin de faire des offrandes sacrifices aujourd'hui parce que tout est accompli. Tu attends à présent deux choses. Tu attends, Seigneur, l'offrande dîme et l'offrande libérale, Seigneur, pour les besoins de ta maison et de ton peuple. Seigneur, sois béni pour cela, parce que tu n'exiges rien. Tu attends juste que nous soyons généreux et que nous donnions sans contrainte, Seigneur. Peu importe la quantité. Nous rappelons de cet épisode aussi au temple, où Christ a vu cette veuve qui a donné si peu par rapport au précédent qui avait donné beaucoup et qui l'avait crié. Seigneur, cette dame avait donné si peu, mais c'était ce dont elle avait besoin. Et tu l'as remarqué et tu l'as honoré, Seigneur. C'est aussi une image pour nous. N'en garde pas la quantité, Seigneur, elle t'importe peu. Tu regardes la façon dont nous donnons. Seigneur, apprends-nous à le faire avec amour, Seigneur, et avec détachement, afin d'être conforme en toutes choses en ton Fils, même sur ces thématiques-là. Nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de Christ. Amen.
Amen.